Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro, Shavua Tov. On se retrouve comme chaque semaine pour Mélave Malka, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Bonsoir Rav Eli Lemel, Shavua Tov.
Bonsoir, Shavua Tov.
On va voir ensemble, comme on le fait chaque semaine, la paracha, notre passage que nous lisons dans nos communautés. Et alors vous avez envie de revenir aussi sur celle de la semaine passée, enfin, faire un lien et revenir sur un sujet qu'on évoquait déjà la semaine passée dans la paracha, c'est celui du bâton de Moïse, de Moshe Rabbeinu. Et alors ce bâton, il est évidemment le sujet de réflexion des sages, de nos sages, depuis des générations et des générations. À la fois, évidemment, il peut être résumé à quelque chose de simple qu'on enseigne dans les écoles, et à la fois, il a quand même des interrogations. Il porte en lui des interrogations très fortes. Par exemple, c'est un bâton, mais non, c'est pas un bâton. Et surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il fait des choses, des miracles, que les Égyptiens peuvent aussi faire. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles Pharaon ne se laisse pas convaincre par Moshe Rabbeinu. La Torah n'est pas obligée de nous dire, vous savez, les adversaires, ils font la même chose que Moïse. Si on avait vraiment un texte dogmatique et un peu bête, il ne nous dit pas ça. Donc, c'est quoi ce bâton, j'ai envie de vous dire, Rav Eli Lemel.
Exact, c'est vrai qu'on va voir arriver donc, l'univers des Makotes, l'univers de ces 10 plaies. Et on voit eh bien, le bâton, ce fameux maté, ce bâton que Moshe va voir, qu'il va étendre par la suite lorsqu'il va s'agir d'ouvrir la mer, qui va être utilisé pour un certain nombre de makotes. Et donc il est là, donc on a un bâton. Bon, très bien. Alors on sait que ce bâton-là, en vérité, il a toute une histoire, il est déjà présent dans le Jardin d'Éden, il va être transmis, et puis Moshe va le retrouver, il va l'avoir. Il y a dessus déjà gravé de Tzach Hadash Be'achav, c'est-à-dire déjà dessus gravé l'acrostiche des 10 makotes, des 10 plaies. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand Moshe va, et c'est un petit peu ce contact avec la paracha la semaine dernière, on va essayer de se reconnecter à celle de cette semaine aussi. La première utilisation du bâton, vous savez, c'est quand ce bâton devient serpent. Hein, il devient serpent. Et alors là, arrive justement en piste, eh bien, les chachamim, les mechashvim, c'est-à-dire il y a à la fois les sages et puis en même temps mechashvim, les sorciers. C'est intéressant, d'ailleurs on parle des deux et puis ils sont présents et puis ils vont aussi prendre des bâtons. Mais alors là, ce qui est très curieux, ben, c'est qu'ils ne prennent pas un bâton qui a le même nom que celui de Moshe. C'est-à-dire, on aurait pu dire, ils ont pris leur bâton et en hébreu ça se dit maté. Or là, on nous dit non, ils ont utilisé l'ahatem. Très curieux. Pourquoi on donne un autre nom au bâton des prêtres égyptiens, des sorciers égyptiens? Et ce qui est encore plus curieux, c'est que quand vous avancez justement dans le texte, eh bien ce bâton qui était l'Ahatem, eh bien on va l'appeler autrement, on va l'appeler l'Atehem, c'est-à-dire il y a un hé qui saute, jusqu'au moment où en effet eh bien, les Égyptiens disent « Non, ben, c'est bon, on n'y arrive plus, Etzbaïlokimi, c'est littéralement le doigt de Dieu ». Jusqu'au moment où même par la suite, ils reconnaissent en premier lieu d'ailleurs que c'est Dieu qui est derrière. Mais qu'est-ce qui se joue ici? Alors, de manière très intéressante, ce terme que l'on utilise à propos du bâton des Égyptiens, qui n'est pas le maté, qui lui a été transmis depuis le Jardin d'Éden, eh bien, nous reconnecte avec le Jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit que lorsque le peuple d'Israël, pardonnez-moi, je suis déjà à la sortie d'Égypte, lorsque Adam et Ève quitte le jardin d'Éden, à ce moment-là, eh bien, Dieu va mettre devant le jardin d'Éden de kérouvim, de chérubins, qui vont garder le chemin de l'arbre de la vie éternelle, et il va y avoir aussi présent lahat acherev amita peret. Lahat, c'est le même terme, c'est-à-dire la lame de l'épée qui tourne en permanence, qui est tournoyante. On utilise ici le même terme, le mot lahat. Et évidemment, il y a quelque chose ici qui nous interpelle, qui nous interroge. Et les maîtres du Talmud, dans le traité de Sanhédrin, vont nous dire, oui, quand le bâton s'appelle lahat, alors il s'agit de ce qu'on appelle achizat enayim, c'est-à-dire d'être capable de littéralement capturer les yeux, c'est-à-dire être capable de tout simplement créer de l'illusion à l'image d'un illusionniste. Les réalités ne bougent pas, mais l'illusionniste peut nous amener à voir les choses de manière différente. Et puis vous avez l'at, l'autre forme de bâton des Égyptiens, et ça par contre c'est très différent, c'est la capacité qu'ils ont d'appeler ce qu'on appellerait aujourd'hui les forces obscures, les énergies négatives dans le monde des Shedim, des démons, toutes ces choses-là, pour là véritablement travailler sur la nature des choses en tant que telles. Il est intéressant de voir que justement, eh bien, au tout début, on a ce lahat, c'est-à-dire on a d'un côté le bâton de Moïse, qui était le bâton qui était présent dans le jardin d'Éden, et de l'autre côté, eh bien, on a ces autres bâtons qui sont au fond les bâtons d'illusion. Et l'idée, au fond, elle serait peut-être la suivante. Toute la problématique que l'on va retrouver à l'intérieur des 10 makot, des 10 plaies, ça va être quoi? Ça va être quelle lecture on va en avoir. Et c'est intéressant de voir que le pharaon, en vérité, si vous regardez le Midrash, eh bien, chaque fois qu'il va être confronté à ces choses-là, il va être capable d'inventer une lecture. Une lecture qui lui permet de ne pas voir derrière cela la présence divine et sa toute-puissance. Il va être capable, en effet, d'être à l'image de l'ahat acherevamita pechet, c'est-à-dire de créer, de rentrer dans un monde d'illusion. Pourquoi? Parce que rappelons-nous que quand Adam et Ève quittent le jardin d'Éden, eh bien, ils rentrent dans un monde dans lequel la notion de vérité absolue et de mensonge absolu ont disparu. Ils rentrent dans le monde du bien et du mal, c'est-à-dire de ce monde relatif, puisque vous savez pertinemment qu'on peut nous dire parfois qu'une chose est mal et c'est pas pour autant qu'on la fera pas. On peut nous dire parfois qu'une chose est bonne à faire et on ne la fera pas nécessairement. La notion de vérité et de mensonge dans laquelle ils étaient installés dans le jardin d'Éden, eh bien, est derrière eux. Et donc, on rentre dans ce monde un peu tournoyant, dans ce monde d'illusions, dans ce monde dans lequel on peut transformer notre regard, dans ce monde dans lequel on peut dire « oui, c'est bon, mais c'est peut-être pas nécessairement si bon. Vous dites que c'est mal, mais c'est peut-être pas si mal que ça. » Et au fond, on va se retrouver, eh bien, dans la difficulté d'avoir une vision claire des choses. Et c'est exactement cela qui va se jouer dans cette rencontre entre le bâton de Moshe, qui lui, justement, lui, a, j'ai presque envie de dire, poussé dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire qui véhicule et qui est là pour véhiculer les notions de vérité. Il est là pour, à travers tous ces signes, montrer la dimension totalement vraie de cette parole divine qui est dans l'univers, qui dirige l'univers, qui a créé l'univers, qui est capable d'intervenir pour faire ce qu'il désire dans cet univers, et d'un monde qui est là et qui va dire « mais non, on va prendre toutes ces plaies, mais on va leur donner une autre lecture, une lecture de la nature. » Et même si vous leur donnez une lecture de la nature, mais qui est derrière la nature. Non, mais ça, c'est un autre sujet. Et c'est un petit peu le problème que va avoir le pharaon, jusqu'au moment où il va être conscient que, eh bien, il ne peut plus faire cette lecture. Pourquoi il bloque maintenant? Pourquoi il ne va plus faire cette lecture? Pour une raison très simple. C'est qu'au moment de la mort des premiers-nés, qui est la dernière plaie, le pharaon sait qu'il est lui-même premier-né. Le pharaon donc se confronte à la problématique de la finitude. Et là, évidemment, ça le renvoie à quelque chose qui est une interrogation, est-ce que véritablement le choix de lecture que j'ai fait est bon ou pas? Et il se rend compte qu'il est faux. Mais seulement, là il est trop tard, parce que c'est dans cette confrontation à cette dimension-là qu'il est obligé d'en prendre conscience, alors qu'on attendait de lui qu'il fasse la démarche bien en amont, bien auparavant. J'ai l'impression qu'au fond, cette histoire du bâton de Moshe versus ces bâtons égyptiens, donc du maté qui pousse dans le jardin d'Éden et de ces bâtons qui nous renvoient à cette épée tournoyante qui est là pour nous égarer l'esprit, elle est un petit peu un des enjeux majeurs des sociétés dans lesquelles on se trouve, puisqu'on a de plus en plus la possibilité de créer toutes sortes de lectures sur tout. D'ailleurs, vous savez, c'est un des grands problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que, eh bien, sur toute chose, quelle qu'elle soit, un événement, une situation, eh bien, chacun va être dans cette dimension tournoyante. Non, mais moi, je vois les choses comme ça. Non, mais moi, je les pense comme ça. Non, mais moi, je pense que ceci. Mais moi, je pense que cela. Et la dimension de la vérité radicale et absolue qui provenait du jardin d'Éden, eh bien, on comprend ô combien elle n'est plus présente. Et quelque part, c'est bouleversant. C'est bouleversant parce que il va falloir faire un travail extrêmement, j'ai presque envie de dire pas fastidieux, mais un travail important pour essayer d'être le plus près possible de cette dimension du vrai pour justement arriver à la Geoula, pour arriver à la libération que symbolise ce bâton que Moshe garde et qui va nous ouvrir justement les perspectives d'un univers dans lequel, au moment de la révélation telle qu'on va la voir dans les parachutes qui arrivent, là, la dimension pré-faute d'Adam Harishon se remet en place, puisqu'on sait qu'au moment où la Torah va être révélée, eh bien, on se retrouve dans la posture de avant la faute, pour bien nous montrer que ce ne sera qu'à travers la confrontation à la Torah que nous arriverons à retrouver cette dimension du vrai.
Cette dimension du vrai est peut-être tout simplement une, comment dire en hébreu, une sheifa,
une inspiration.
Oui, une inspiration. Peut-être que nous, on n'y arrivera jamais, en fait.
Ce qui est important, c'est de savoir si on en a, si on a vis-à-vis de cette chose-là une aspiration réelle, si on en a un désir réel.
Et si on en a envie.
Et c'est la raison pour laquelle, dans notre prière, on nous dit, entre autres, on demande à Dieu d'éclairer notre regard avec sa Torah, de faire en telle sorte qu'elle nous permette d'être le plus près possible de cette dimension de vérité.
Eh bien, on va prier très fort pour y arriver, et pour en avoir, ne serait-ce que, ça serait beau, hein, rien qu'une le goût de la vérité absolue. Rav Eli Lemel, en tout cas, on a un très bon goût à chaque fois qu'on se retrouve le samedi soir dans cette émission, Melaveh Malka, avec vous tous et avec les auditeurs. Rav Eli Lemel, je vous remercie et Shavua Tov.
Shavua Tov.
On se retrouve dans un instant pour la suite de Melaveh Malka. On part pour Jérusalem, où l'on retrouve Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai Biton.
Shalom, shalom.
Bonsoir, Shavua Tov. Rav Mordechai Biton, on voit dans cette paracha que les portes de la Tchouva sont définitivement fermées à Pharaon. Or, excusez-moi, je n'ai pas votre niveau d'érudition, mais la Tchouva, normalement, on dit même qu'elle est surnaturelle. Elle est ouverte à tout le monde, tout le temps. Alors pourquoi, tout d'un coup, elle est fermée à Pharaon?
Absolument. On voit dans le début des plaies, au fur et à mesure que les plaies s'abattent, on voit qu'il y a une possibilité pour que Pharaon comprenne ce qui se passe. Puis à un moment donné, dans cette paracha, Boel Paro, Hachem s'adresse à Moshe Rabbeinu et lui dit « Viens, viens chez Pharaon. » Et pourquoi ? Irbadeti et libo, j'ai endurci son cœur, le man shiti ototai, pour que je puisse exercer donc mes otot, mes signes, également que je puisse faire des prodiges, que je puisse affirmer ma présence ici dans le monde. Donc je ferme la porte à la tchouva à Pharaon. Dans cette paracha, on nous l'annonce de manière claire et nette. Alors pour le comprendre, je nous invite tous à rejoindre le Rambam Maïmonide sur les lois de la tchouva au chapitre 6. À la halakha 3, au texte 3, il est écrit la chose suivante. Pourquoi est-ce que Hachem envoyait Moïse, dire à Pharaon, renvoie donc notre peuple. En fait, il l'envoyait pour qu'il fasse tchouva. Il l'invitait à la tchouva. Le fait même que ce soit Moshe Rabbeinu qui vienne, se présente devant Pharaon, et l'invite à renvoyer les bénis d'Israël, c'était déjà une invitation à la tchouva. Et à Kadosh Baruch Hu, à un moment donné, va dire à Moshe Rabbeinu, eh bien finalement, je ne t'enverrai plus là-bas, c'est fini, je ne t'enverrai plus, je ne vais plus t'envoyer là-bas pour que tu dises à Pharaon de faire tchouva. Pourquoi ? Et le Rambam va utiliser, Maïmonide ici va utiliser une formule très, très surprenante. Il dit la chose suivante. Il faut que les gens sachent que lorsque Akadosh Baruch Hu monéa à tchouva, c'est-à-dire lorsqu'il empêche une personne de faire tchouva, eh bien cette personne ne peut pas faire tchouva et ne pourra pas revenir de son impiété. Et donc, cette personne-là qui au départ faisait la volonté d'Hachem, bah, cette personne-là ne pourra pas faire tchouva. En vérité, ce qui nous est indiqué ici, c'est la chose suivante. Il y a un moment où effectivement, Akadosh Baruch Hu ferme les portes de la tchouva à l'individu. On va le prévenir. Alors, apprenons, essayons d'extraire maintenant cet enseignement-là pour nous. Akadosh Baruch Hu, il va prévenir. Il envoie des signes. Il permet à l'individu de comprendre qu'il est dans un chemin, qui est un chemin problématique. Il lui fait comprendre qu'il est en train de se détruire. Il fait comprendre qu'il est en train de détruire des choses autour de lui. Il lui fait comprendre qu'il y a ici une série de comportements qui sont des comportements destructeurs. Il envoie des signes. À Pharaon, il lui a envoyé Moshe Rabbeinu. Il lui a envoyé les plaies. Il l'a fait réfléchir. Il a vu, Pharaon, que les plaies étaient ce qu'on appelle Mida Kelegad Mida, c'est-à-dire mesure pour mesure. Bref, il a eu 7 occasions de réfléchir pendant les 7 premières plaies. Et à un moment donné, effectivement, cette porte se ferme. Pourquoi, en fait ? Ça n'est pas Hachem qui ferme la porte. Le Rambam, d'ailleurs, Maïmonide, va conclure son développement en disant la chose suivante. Il dit, ce n'est pas Hachem qui a fermé la porte à Pharaon. Ce n'est pas Hachem. Ce n'est pas lui qui va fermer la porte à Sichon, un roi dont la Torah nous raconte qu'il voulait attaquer les Israël et qui, à la fin, va être tué. Ce n'est pas Hachem qui empêche les Cananéens donc de faire toutes leurs horreurs, les sacrifices d'enfants et leurs dépravations, etc. Ça n'est pas également Hachem qui a poussé Am Israël, le peuple juif, à pratiquer l'idolâtrie à l'époque du prophète Eliyahu Navi, avant la construction du premier temple. Et la Kulan, Khatoum et Hatzman, tous ces gens-là ont fauté par eux-mêmes et ils se sont rendus passibles, tous, au point qu'ils ont éloigné d'eux-mêmes la tchouva. Et ça, c'est le point sur lequel il faut s'apesantir ici. Maïmonide vient nous dire la chose suivante. En vérité, ce n'est pas Dieu qui ferme la porte. C'est l'individu qui, par son attitude, va, selon les mots très précis du Rambam, puisqu'on sait que le Rambam et Maïmonide est toujours très précis, eh bien, ils vont tout simplement éloigner d'eux la possibilité de faire tchouva. C'est-à-dire qu'il y a une mida, il y a un trait de comportement chez l'individu qui est l'entêtement. L'entêtement dans une attitude, l'aveuglement dans une attitude, l'incapacité de raisonner en dehors de son cercle, qui va faire que c'est lui-même, sur le plan psychique, dans un premier temps, sur le plan mental, qui ferme la porte à la remise en cause. Puis ensuite, une fois qu'il a fermé la porte à la remise en cause, donc il a fermé également ses yeux et son cerveau à analyser des situations qui sont des situations de retour. Puis à la fin, en fait, psychologiquement et psychiquement, l'individu s'enferme dans des situations de non-retour. Et comme il s'enferme dans des situations de non-retour, il n'est plus du tout incapable d'accepter le retour qu'on va lui offrir. Et donc à la fin, on ne lui offre plus de retour puisqu'il n'y a plus personne pour l'écouter. Et ça, c'est ce qu'on voit dans cette paracha. Et Pharaon est le modèle type de ce type d'individu. Alors, vous savez que nos sages, on l'a dit à plusieurs reprises, on ne cesse de le répéter tout au long de ces parachas, nos sages nous disent que la délivrance donc de l'exil égyptien est une préfiguration de la délivrance de l'exil final. D'accord ? D'après tous nos sages, nous sommes dans Gvita de Meshicha, une période pré-messianique, et donc nous voyons se répéter dans notre époque des processus qui sont les processus qui ont marqué la délivrance de l'esclavage égyptien. Un de ces processus est l'incapacité programmée, en quelque sorte, autoprogrammée, chez Pharaon, de faire tchouva. Il ne peut plus faire tchouva. Finalement, dans notre époque aussi, qui est une époque de, époque de confusion, on observe aussi également ce genre de phénomène. On observe cette idée que finalement, parfois, des individus se ferment complètement à la remise en cause, se ferment complètement à une autocritique, à une capacité finalement de reconsidérer leur attitude. Et cet entêtement-là, il fait partie de ce que nos sages appellent Chutzpa Yasgeh. Ils disent qu'à la fin des temps, au moment où le Mashiach va se dévoiler, Chutzpa Yasgeh, l'insolence va se développer. La Chutzpa, l'insolence dont on parle ici, c'est finalement cette manière de défier le bon Dieu lui-même. D'accord ? C'est cette idée de dire qu'on voit bien qu'il y a un certain nombre de systèmes qui ne marchent pas, on voit bien qu'il y a des systèmes de comportement qui ne marchent pas. On voit bien, si on veut dire les choses de manière un peu triviale, qu'en quelque sorte, le Créateur attend les gens au coin du bois. au coin de la rue. Les gens, ils jouent avec le créateur, et à un moment donné, ils ont rendez-vous avec lui. Il y a des rendez-vous, mais ce jour-là, il est trop tard, parce que les gens ne voient plus. Et ça, c'est ce que cette paracha vient nous enseigner. Et tous les jours, dans la prière, je vais conclure avec ça, nous prions pour ne pas être atteints par cette maladie. Dans les tachanounim, dans les supplications journalières que nous récitons tous les jours, après la tefila, après la amida, on demande à Kadosh Baruch Hu, Orenina Hashem derachecha, enseigne-moi tes chemins. Et les commentateurs de la tefila, de la prière, disent qu'en fait, nous prions pour que Hashem ne nous ferme jamais la porte à la tshuva. C'est-à-dire que malgré qu'on a fauté, qu'on ne soit jamais enfoncé dans les averot qu'on peut faire, chazvei shalom, mais qu'on ne soit jamais enfoncé au point de ne pas être capable de comprendre qu'on est en train de se tromper. C'est une prière que nous récitons tous les jours, et c'était la prière de tous les tzadikim, dit le Sefer Be'er Moshe du Rav Salant, cite cet enseignement, et il dit « Sachez, mes chers amis, chers lecteurs, dit-il, que la prière des tzadikim a toujours été celle-là, que, étant donné qu'il est impossible de ne pas fauter, de ne jamais croire que les fautes que nous faisons sont des mitzvot, et de ne jamais croire que de ne jamais penser, en quelque sorte, que on pourra toujours s'en sortir. Ben, on va fauter, on va s'en sortir. C'est pas comme ça que ça marche. La prière des tzadikim est notre prière quotidienne à nous, les bélonim, nous les gens du peuple, tous les jours, et tout simplement que Hachem ne nous laisse pas nous enfoncer. Et c'est une prière extraordinaire. « Ore nina Hachem derechecha, enseigne-moi tes chemins, ne me laisse pas m'enfoncer, montre-moi si je me trompe, que je me trompe, et que je sache me remettre en cause. » Une tefila tout à fait fondamentale. Et c'est ce qui fait effectivement que quand on se trompe, eh ben, on peut facilement le reconnaître et faire marche arrière. Pas comme Pharaon, qui lui a mal fini. Shavua Tov à toutes et à tous.
Shavua Tov, Rav Mordechai Biton. Je pense, j'ai toujours pensé que c'était l'un des passages, l'un des sujets les plus difficiles, vraiment, à comprendre. C'est lui de la limite entre la décision de Dieu et celle de l'homme. Évidemment, je l'ai une banalité, mais même, je crois que dans nos vies quotidiennes, des fois, c'est très, très dur. Parce que finalement, on nous dit, et c'est comme ça, Dieu est maître de tout, ok. Ou alors on ne croit pas, hein, vous savez, il y a des gens qui ne croient pas, ils ont le droit de ne pas croire. Oui. Mais, et, voilà, donc Dieu est maître de tout. Mais d'un autre côté, c'est toi qui es responsable de ça. Oui, mais alors, donc, qui fait quoi? Et je pense que vous nous avez beaucoup éclairé ce soir, parce que, et qu'on n'a pas fini d'y réfléchir. Parce que c'est vraiment un très très vaste et très profond sujet.
Absolument, absolument. C'est un sujet fondamental. La limite, finalement, entre la responsabilité de l'homme, qui doit prendre la responsabilité de ses actes, et sa propre irresponsabilité. Quand est-ce que l'homme devient irresponsable au point qu'on ne peut plus rien lui dire? C'est ça, finalement, le point de césure, le point de fracture. Et vous rendez compte, c'est absolument extraordinaire, parce qu'on prie pour ça. Ça veut dire que si on doit prier pour ça, ça veut dire qu'on peut très vite y tomber. Enfin, très vite, c'est un processus, mais on peut y arriver. On peut arriver à se tromper au point de ne plus être capable du tout, de comprendre qu'on est en train de se tromper. Ça veut dire que c'est une chose à laquelle il faut effectivement beaucoup réfléchir, mais le Rambam, Maïmonide, ici, nous l'explique très très bien dans ce chapitre-là des lois de la Teshuvah, explique très très bien finalement où l'individu finalement franchit des lignes de non-retour et finalement massacre cette Bechira, cette capacité de choisir qui est en lui, et finalement finit par s'anéantir lui-même.
Rav Mordechai Biton, je vous remercie. Bonsoir à vous et Shavuot.
Bonsoir.
On se retrouve dans un instant pour la suite de Melave Malka. Et nous sommes en ligne à présent avec Maria Chadré. Bonsoir Maria Chavuatov.
Shavuatov Bernard.
Shavuatov, on continue avec vous notre réflexion sur la paracha. Et alors vous voulez dire quelque chose, c'est que, vous allez nous dire pourquoi, mais en résumé si on peut dire, la Géoula, la Galoute, sont des mots très proches. Donc l'exil et la délivrance sont décrits avec des mots très proches. Géoula, Galoute. Vous dites, mais finalement... Je sais que c'est le sujet que vous voulez aborder, parce que vous m'avez dit tout à l'heure, Bernard, moi, c'est pas mon style de parler de choses qui sont comme ça, intimes, mais étant donné la situation, les révélations qu'il y a eu cette semaine sur, dans le monde orthodoxe, sur un personnage important, etc., je voudrais dire que ça passe aussi, on passe aussi de l'exil à la délivrance en étant très précis sur sa sexualité. Alors, expliquez-nous ce que vous voulez dire, Maria.
Oui, en effet, Bernard. Alors, c'est vrai, ce sont des sujets, la plupart du temps, il y a une expression qui dit « il y a fait la M à Tzniout ». C'est bien, la Tzniout est positive. Et là, je crois que l'époque que nous vivons est une époque qui impose que nous puissions dire des choses, et même si elles sont publiques et à la radio, que nous puissions clairement exprimer finalement ce qui est écrit dans Chazal, dans nos textes les plus antiques, concernant la période de Galout et des Géoula, c'est-à-dire d'exil et de délivrance, en lien avec la sexualité quand elle est telle qu'elle doit se mettre en place ou, Dieu préserve, dévoyée, comme nous l'avons vu. Alors, en fait, je vais même dire, c'est pas seulement aussi, vous avez dit c'est aussi ça, c'est que ça. Et je vais m'expliquer. Shabbat dernier, j'étais certainement, comme beaucoup d'entre nous, préoccupée, très préoccupée, toute la semaine, très très préoccupée par la crise, hein, j'appelle ça une crise, cette crise abominable dans laquelle un prédateur sexuel a pu, pendant autant d'années, sévir, détruire. Vous savez que je suis aussi thérapeute et je sais ô combien le trauma des personnes est profond. Il y a des dissociations traumatiques très importantes au sein des individus. Et moi-même, je dois vous dire qu'en tant que thérapeute, suite à ces révélations, j'ai passé ma semaine à être proche d'un grand nombre de victimes, non pas de ce Valder, mais des victimes soit d'agression, soit de viol, soit d'attouchement, qui, du fait des actualités, ont eu besoin de s'exprimer, ont eu besoin de parler, ont eu besoin de pleurer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de larmes. J'ai vraiment une quantité de larmes incroyable. Et c'est pour ça que je vous dis, je suis assez bouleversée. Et Shabbat dernier, je lisais comme chaque Shabbat, je lisais le texte, le merveilleux texte de Rav Moshe Shapira, Zichrono Livracha. Alors, c'est un contemporain qui est mort il y a 5 ans, mais le Dvar Torah que je lisais est un Dvar Torah qu'il avait dit il y a 28 ans. Et en le lisant, il y a une douzaine de pages, j'ai été saisie parce que j'ai eu l'impression qu'il était là, qu'il était au courant de l'actualité et qu'il faisait un Dvar Torah sur l'actualité. Alors, c'est vous dire la puissance et la profondeur de la Torah quand elle est authentique, quand elle est vécue et transmise de façon authentique, en fait, elle est intemporelle. Et ce qu'il disait il y a 28 ans, dans la paracha de la semaine, c'est tout simplement ce qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui. Et alors, il expliquait justement que toutes la paracha, les parachiotes que nous lisons actuellement, de Shemot jusqu'à Mishpatim, et donc là, cette semaine, c'est beau, c'est la sortie d'Égypte. Eh bien, en fait, c'est un tout dans la Torah. C'est un tout qui a un nom, ça s'appelle les Shovevim. Les Shovevim, c'est un mot qui utilise en acrostiche les premières lettres de chaque paracha, Shemot, Vaera, Bo, etc. Et donc, pour dire que nous sommes dans cette période très spéciale dans le cycle de la lecture de la Torah, où nous passons de l'exil à la délivrance et au don de la Torah. Mishpatim, c'est la paracha où on dit Naase Venishma. Donc, nous ferons et nous comprendrons, c'est donc le don de la Torah. Donc, on commence à un point de départ d'exil, de servitude en Égypte, et on sort d'Égypte avec une Torah, avec l'histoire d'Israël qui commence. Quel est l'essentiel de ce mouvement-là de sortie d'Égypte, qui est un mouvement bien sûr qui a eu lieu il y a 3500 ans, mais qui a lieu chaque année, puisque nous le savons bien, sortir d'Égypte, c'est sortir régulièrement d'un emprisonnement. Et il y a des emprisonnements, pour citer l'actualité, l'emprisonnement dans lequel se trouvaient les victimes de ce prédateur et qui ont voulu peut-être parler, qui n'ont pas été crues pendant de très nombreuses années, puisque plus il s'agit d'une personne connue et de pouvoir, moins on croit les victimes. Et donc, il s'agit ici de sortir d'un emprisonnement, de sortir de ce mécanisme. Et dire Rav Moshe Shapira, la galoute, c'est être extérieur à l'histoire qui a commencé par les trois patriarches, appelés avot, des pères, et être extérieur donc à Avraham, Yitzhak, Yaakov. La Géoula, c'est quand on sait se ressaisir à nouveau de l'histoire, l'histoire, je dirais, qui part de nous et qui remonte jusqu'à Abraham, et avec une forme, entre guillemets, une forme presque d'arbre généalogique dans lequel il n'y aurait eu aucune perte. Alors je m'explique quand je dis aucune perte. Le Rav Shapira explique que l'Égypte est le lieu de la dépravation par excellence. Quelle dépravation ? Sexuelle. Il y a une Gemara dans Yevamot qui dit « Ein av le Mitzri ». Un Égyptien n'a pas de père. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas de père ? Ça veut dire qu'on ne peut pas préciser, dire qui est son père, tellement à cette époque-là antique, l'Égypte était le monde le plus débauché, et les femmes avaient de très nombreux compagnons, et elles étaient enceintes de l'un puis de l'autre, etc. Et d'ailleurs, dans la plaie des premiers-nés que nous racontons cette semaine dans la paracha, on raconte justement qu'il y avait des familles où il y avait plusieurs premiers-nés de leur père, puisque des femmes enceintes qui ont eu des enfants de plusieurs hommes. Donc, la sortie d'Égypte, c'est aussi mettre l'accent sur le fait que en Égypte, tout est débauché. Face à cela, nous avons le peuple d'Israël qui, lui, de façon exceptionnelle, vraiment exceptionnelle, pendant 210 ans, il n'y a pas eu un détour. Pardon. Il n'y a pas eu une seule personne. Alors, 4 millions d'individus, dit Rav Shapira, 210 ans, un peuple qui est beau et qui est esclave, soumis. Il dit, il pose la question, mais comment c'est possible qu'à aucun moment il n'y ait eu de la débauche, des viols, des infidélités, etc. Comment se fait-il ? Alors, il y a un seul cas unique recensé dans la Torah. La Torah en parle parce que c'est le cas unique. Et encore, c'était un viol d'un Égyptien sur une femme juive, la fameuse Shlomit Bat Divri, où un Égyptien avait posé ses yeux sur elle, avait inventé un travail à faire pour le mari pour qu'il parte le soir et avait donc violé cette femme. Cet unique cas est recensé. Alors comment c'est possible ? Explique Rav Moshe, eh bien c'est grâce à Yosef. Yosef HaTzadik qui avait, quand il a résisté à l'épreuve de la femme de Potiphar, eh bien il a, pour ainsi dire, enraciné à l'intérieur de l'histoire du peuple d'Israël, la possibilité à être conforme à la émouna, c'est-à-dire à la confiance que nous portent nos avot, appelés nos avot, avot c'est-à-dire nos pères, dans le sens où, écoute, tu as une force de fertilité, sois digne de confiance, que ta force de fertilité ne soit pas dévoyée, ne soit pas dissous, que tu ne l'utilises pas à tout va et qu'elle puisse rester dans le cadre bien strict que la Torah a posé, qui est le cadre du mariage, du mikvé, le cadre à l'intérieur de notre peuple. Donc on a vraiment un cadre très strict qui est posé. Et explique Rav Moshe Shapira, toute cette période des chovevim, donc du passage de l'exil à la délivrance, c'est tout simplement une période qui a comme capacité, dit-il, tikkun pegam abrit, je traduis, de réparer toutes les erreurs qui ont pu être faites au niveau de la sexualité, d'une sexualité qui n'est pas utilisée comme elle doit l'être. Et donc, je ne suis pas surprise, finalement, que cette histoire, ce scandale éclate en plein dans cette période, parce que c'est justement la période dans laquelle la Torah nous dit, écoutez, vous êtes porteur de l'ADN d'Abraham, Yitzhak et Jacob, cet ADN, vous devez le transmettre. Mais vous devez le transmettre dans la continuité et dans la lignée de ce qu'ils vous ont appris. Et il rajoute encore quelque chose, je trouve, de fabuleux, je terminerai avec ça. Il parle du mot « emouna », faire confiance. Alors, à Dieu, bien sûr, mais aussi faire confiance à quelqu'un. Eh bien, la emouna est une mida, c'est un trait de caractère qui est réflexif. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait confiance est aussi digne de confiance. Et quelqu'un qui est digne de confiance est quelqu'un qui fait confiance. Alors, nous devons être dignes de la confiance qui nous a été faite par nos avot, nos patriarches, nos pères, et transmettre cette confiance à nos enfants, qui eux aussi auront une puissance de fertilité qu'ils doivent maîtriser, qu'ils doivent maîtriser et orienter même pour que continue le peuple d'Israël. Mais j'irai même plus loin. Faire confiance, être digne de confiance, c'est aussi envoyer un message très fort à qui que ce soit qui a vécu les horreurs du monde de la dépravation sexuelle. qu'on puisse lui dire « On te croit, viens, parle, on te croit, tu es digne de confiance, on te donne notre confiance. Et toi aussi, tu pourras donner ta confiance à d'autres parce qu'on te croit. » Et que l'on puisse dire à nos enfants, parce qu'il s'agit d'enfants qui ont été violés, qu'on puisse leur dire « On te croit, tu peux nous parler en toute sécurité. » Et qu'on puisse, eh bien, c'est mon souhait le plus cher, réparer les âmes brisées de toutes ces personnes, celles de ce prédateur comme d'autres. Je crois que c'est un sujet qui est encore beaucoup trop tabou. C'est un sujet que nous devons évoquer sur votre antenne. Je vous remercie, Bernard, de donner la possibilité de l'évoquer. Et c'est des sujets qui doivent être évoqués dans les écoles. C'est un projet que j'espère mettre en place, de pouvoir faire de la prévention et de pouvoir éduquer aussi nos fils, nos jeunes adolescents à devenir plus tard des hommes en qui on peut avoir confiance parce qu'ils seront dans cette lignée et dans cette continuité d'Avraham, Yitzhak et Yaakov et de l'histoire du peuple juif qui pourra continuer parce qu'on est digne de cette confiance.
Maria Chadré, je vous remercie pour ces belles paroles. Oui, évidemment, la liberté de parole sur tous les sujets sera toujours garantie, je l'espère, sur Radio Shalom. J'aurais juste un mot précisé que on avait dit, tiens, c'est extraordinaire, toutes les révélations de Sigmund Freud sur la sexualité, etc., on les a retrouvées aussi dans les textes, alors que c'est le contraire. C'est Sigmund Freud qui a étudié le judaïsme et qui les a utilisés pour créer sa théorie qui s'appelle la psychanalyse. Je vous remercie, Maria Chadré. Bonsoir à vous et Shavua Tov.
Merci, Shavua Tov.
Voilà, cette émission est à présent terminée. C'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à toutes Shavua Tov. Shalom leiboy naboy, Hashem lo yishmarihi. Shav shokat shoy mei, Hashem lo yine bayis. Shalom leiboy naboy, Hashem lo yishmarihi. Shav shokat shoy mei.